www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Nous voilà de retour à La Ville est à vous de Saint-Jean, un quartier dans la périphérie immédiate de Genève, pour ce deuxième jour de radio. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, eh bien, nous recevrons, je vais aller à l'envers, donc pour la fin de l'émission, nous recevrons l'équipe d'organisation de l'Octopod Festival, ici à Genève, qui aura cours cet été au mois d'août, au début du mois d'août. Avant cela, nous espérons recevoir l'équipe du Festishow, le festival qui se fait... qui s'opère dans le Jura, mais c'est pas encore sûr parce que voilà, les distances font que des fois les parcours sont délicats. Et puis nous allons parler également de la Coupe du Monde, alors avec un angle, comment dire, un petit peu singulier. C'est une écrivaine, Si Young, qui interviendra par Framatalk pour nous parler de sa vision des choses concernant cette Coupe du Monde qui donc a commencé en Russie, alors que des personnes s'y opposent. Et que parmi ces personnes qui s'y opposent, notamment des journalistes se trouvent en prison. On sait que le régime de Poutine est pour le moins un régime autoritaire. Voilà, et on voulait mettre ça également en exergue par rapport à l'organisation des Coupes du Monde prochaines. Par exemple, celle en Qatar en 2022, où l'on sait d'ores et déjà que plus de 1200 ouvriers sont décédés sur les chantiers du mondial. Et puis on reviendra peut-être également sur d'anciennes Coupes du Monde. Je pourrais prendre un exemple, celle de 1978 en Argentine, où sous le joug du dictateur Videla, donc un régime dictatorial, on torturait les geôles dans les geôles à proximité des stades de foot, où s'opérait là un travail de propagande, et que les équipes européennes, bien entendu, ont joué le jeu de cette propagande. On peut s'interroger sur, du coup, la fonction du football. Voilà, ça, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Pour maintenant, nous recevons des personnes de passage, peut-être des associations, on ne sait pas. C'est un petit peu la libre antenne de la radio en ce moment. Nous allons certainement parler des échiquiers du Bastion, une association qui promeut les échecs, qui font des ateliers en ce moment ici. S'ils ont un petit moment, ils viendront nous parler. Et là, nous recevons Isa. Bonjour à toi, bienvenue.
Bah merci, salut.
Salut. Alors, tu es céramiste, tu es toi-même céramiste, pardon.
Ouais.
Alors, tu organises des ateliers et également des expositions. Et tu es ici aujourd'hui présente avec un stand. Alors, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu mieux, toi. Alors, à l'aune de la céramique, ce que tu en fais, pourquoi tu en es arrivé là. Mm-hmm. Et puis ensuite, nous allons discuter un petit peu sur tes activités, ton actualité et tes aspirations.
Bien sûr.
Allons-y. Alors, qui es-tu, Isa ?
Aujourd'hui, j'ai mis un petit stand dans la ville est à vous de Saint-Jean pour faire des démonstrations de tournage et pour que tout le monde puisse aussi s'essayer au tournage pour voir à quel point c'est pas facile.
Absolument. Alors, peut-être préciserais-tu qu'est-ce que le tournage ?
Alors, le tournage, c'est mettre une boule de terre sur un tour. Et en le faisant tourner, les empreintes des doigts font que...
Façonne.
Ça donne un pot.
D'accord. Mais dis-moi, le tour lui-même, ouais, fonctionne-t-il automatiquement ou faut-il le tourner soi-même ?
C'est un tour électrique. Sinon, le tour à pied, j'aurais pas pu l'amener.
Parce que c'est une machine extrêmement lourde.
C'est très lourd, en fait.
D'accord.
Parce qu'il y a un grand socle très, très lourd qu'on lance avec le pied.
Ah, je comprends. Et c'est l'inertie ensuite qui...
Et c'est ça, c'est l'inertie qui fait qu'il n'y a pas besoin d'électricité.
D'accord. Alors, tu vas continuer à te présenter, mais moi je vais un petit peu ponctuer tout ça, saupoudrer tout ça de questions.
Mais bien sûr.
Alors dis-moi, est-ce que par exemple la vitesse est-elle variable et est-elle très importante ?
Tout à fait.
D'accord.
Ouais. Alors en fait, il faut commencer à tourner vite. C'est pour ça qu'il y a une pédale en fait où on peut régler la vitesse sur les tours électriques. Qu'on peut régler avec le pied ou on peut visser un manche si on veut pour régler avec la main aussi.
Ok.
Et donc au départ il faut partir très très vite pour centrer la boule et faire le creux à l'intérieur ou écarter. Et du moment qu'on s'occupe des parois, on commence à ralentir petit à petit jusqu'à quand on fait les finitions, aller très très doucement, parce que si on va vite à ce moment-là, la force d'inertie fait que... Il y a tout qui se casse.
Bien sûr. Concernant la terre, y a-t-il différentes variétés et lesquelles sont plus conseillées que d'autres pour peut-être des débutants, disons ?
Alors, il y a pas mal de sortes de terres. En fait, il y a trois grands groupes de terres. Mmh. Tu as la faïence, qui elle cuit à 1000 degrés seulement en fait. Après, tu as le grès, qui elle est un tout petit peu plus dur à tourner, mais qui cuit à 1280. Donc qui est plus solide, qui peut passer au lave-vaisselle, au micro-ondes, alors que c'est pas trop conseillé pour la faïence par exemple.
Ouais.
Et le troisième grand groupe, c'est la porcelaine. Alors elle qui est très très dure à tourner, voire c'est encore un autre apprentissage de tournage.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de tourneurs de porcelaine qui finissent en tournassant, c'est-à-dire avec une mirette qui font des copeaux. Mmh. Pour affiner la paroi.
J'ai compris.
Et ça, ça cuit à 1300.
D'accord, ok. Alors, j'ai oublié de te demander quand même, oui, pourquoi en es-tu arrivé à cette activité-là de céramiste ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a habité depuis très longtemps et tu as fait une formation relativement classique ? Ou est-ce une activité vers laquelle tu t'es réorienté plus tard ?
Alors, je me suis réorientée vers la céramique parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études en design industriel de produits. Et à l'époque, donc en 2004... On nous disait qu'il fallait produire en Chine, puis la plupart de mes projets étaient très plastiques,
ouais.
Donc rotomoulage ou etc. Et en fait, c'est un peu pas très engageant parce qu'on se dit flûte, je vais faire travailler des enfants, je vais faire voyager ça par cargo, donc niveau humanité. C'était un peu l'edge.
Je comprends, bien sûr.
Donc en fait, j'ai pris la liberté de partir de Genève et de voyager. Donc j'ai voyagé, je suis allée en Australie une année, puis après j'étais en France. Puis après j'étais dans le sud de la France où j'ai fait un peu d'hôtellerie, de chômage, tout ça. Et finalement, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça.
Ok.
J'ai réfléchi.
Et là, tu t'es dit, ouais.
Et j'ai trouvé... céramique. Voilà. Céramique, c'est la création d'objets, donc on garde cet aspect, on va dire, créatif et fonctionnel et naturel en même temps.
D'accord. Ok. Donc c'est vraiment un choix qui s'est produit, je veux dire, à l'âge de raison. Enfin, c'est pas une filière que tu as suivi un petit peu comme ça automatiquement. C'est vraiment une rupture dans ton...
J'ai suivi, on va dire, dans mes études, toujours, ouais, quelque chose d'artistique et qui avait en rapport le volume et, mmh, la création d'objets. Mais j'étais pas d'accord avec les matériaux parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces matériaux recyclés qui commencent à émerger en ce moment,
oui,
heureusement.
Ouais. Alors dis-moi, lorsque l'on entreprend une formation de céramiste, ouais, quelles sont les principales difficultés, les principaux challenges pour arriver ? Est-ce que c'est typiquement, par exemple, les températures ? Parce qu'il faut apprendre les températures et, bon, tu viens de le dire. Est-ce que c'est les matériaux ?
Il y a plein de technologies à apprendre, c'est sûr. On peut facilement faire des petites erreurs, mais ce qu'il y a de plus dur à apprendre, c'est le tournage.
Voilà, c'est ça, c'est le fait de façonner.
En tournant, ouais. Parce que ça met du temps. Et si on n'est pas patient... On peut vite s'énerver.
Ouais, j'imagine.
Et on continue de s'énerver jusqu'à la fin.
Alors, justement, ce tournage, est-ce qu'il se fait exclusivement avec l'emplacement des doigts ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on apprend à placer nos doigts ? À quoi faire de nos mains ?
Ouais.
Et le deuxième volet de la question, c'est y a-t-il des outils que l'on utilise également lors du tournage ?
Alors, oui, il y a plein de choses, mais c'est...
Ouais, j'imagine.
Je viens de voir ma maman qui arrive, qui me cherche, en fait.
Ah. On peut faire une interruption et tu vas la chercher, si tu veux.
Alors, juste 30 secondes, mais histoire de lui dire que je suis là.
Mais oui, et puis, elle peut venir s'asseoir et écouter, si elle veut, hein, avec plaisir.
Oui, oui.
On fait une petite pause musicale, on va passer un petit son.
Parfait.
Comme ça, on n'aura même pas besoin de couper ça.
Parfait.
Alors, petite pause musicale avec notre playlist et puis on te retrouve dans quelques instants.
Ça marche.
C'est parti. À tout de suite.
Merci.
Au rythme
Mib Radio, la radio qui aime trop, les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org.
Voilà, on va pas commenter parce que ça en rajoute. Hein. Isa, donc tu es de retour avec nous et
oui.
Nous parlions du point essentiel lorsque l'on devient céramiste, c'est-à-dire le tournage.
Le tournage.
Façonner les pièces de céramique, enfin façonner les pièces.
Les pièces en terre.
Voilà, les pièces en terre. Alors la question que je te posais, c'était effectivement s'il y avait des outils, on reviendra là-dessus,
oui.
Mais est-ce que, de quelle manière est-ce qu'on utilise ses mains? Je dis ça parce que, est-ce que c'est par exemple comme le langage des signes, tu vois, où chaque signe signifie quelque chose? Est-ce que dans le tournage, il y a des modalités pour pouvoir créer quelque
Alors,
chose?
Alors, au début, il faut bien centrer la boule pour être sûr qu'en fait, les bords soient bien droits à la fin, pour que ce soit une révolution parfaite.
D'accord.
Donc, centrer la boule, c'est déjà une histoire qui demande un peu d'effort.
Oui, et puis cette boule, sait-on plus ou moins quel volume elle doit avoir, le poids qu'elle doit faire?
Alors c'est suivant l'objet qu'on veut faire. Si par exemple on veut faire une petite tasse, on va prendre 250 grammes, 300 grammes. Si on veut faire un gros pichet, eh ben, on prend 1,2 kg, 1,5 kg. Voilà. Si on veut faire une grosse jarre, alors là on peut tourner en deux parties. On tourne 5 kg, puis 5 kg, puis on les colle ensemble. C'est
okay,
possible.
D'accord. Donc ça, c'est à peu près les ordres de grandeur, en tout cas.
Oui.
Je voulais, parce que du coup, je fais la petite parenthèse avec une question qui me restait encore là.
Ouais.
C'est que a priori, tu fais plus sur plan la pièce, c'est-à-dire que tu l'as anticipée, ou alors il y a place à l'impro, si tout d'un coup, on a envie de dire, je commence un truc et on verra où ça me mène.
Alors ça, c'est suivant l'envie du céramiste,
on peut faire les
en
deux.
Fait.
Voilà,
ouais,
d'accord,
tout
d'accord.
À fait.
Okay.
Il y a, on peut faire vraiment une pièce suivant des cotes à respecter, etc. Mais en tenant compte que la terre va rétrécir.
Ah.
Chaque terre a son taux de retrait, que ça soit au séchage ou à la cuisson.
Ah, dans les deux trucs, il y a un rétrécissement.
Tout à fait, ouais.
Je comprends. Okay.
Donc du coup, il faut faire des petits calculs.
Eh oui. Alors revenons-en. Centrer la boule, ça c'est la première chose.
Voilà.
On centre bien. Ensuite.
On centre bien. Ensuite, on fait un creux, mais sans aller jusqu'au bout, parce qu'il faut laisser un fond forcément au pot. Après, on vient écarter. On vient lisser le fond. Et après, on commence à ralentir le tour à ce moment-là. Et là, on commence à s'occuper des parois. Donc là, on fait une première montée qui s'appelle la montée en cône pour préparer la terre à qu'elle soit bien, on va dire, en cône.
Ouais, ouais.
Et ensuite, on vient avec la montée de l'échelle. C'est-à-dire que les doigts viennent se chevaucher le bord.
Uh-huh.
Et il y a l'autre main qui vient à côté pour aider à monter. Donc en fait, le tournage, c'est un pincement qui... Vu que le tour tourne, ce pincement se fait tout autour.
Mmh.
Et en pinçant petit à petit en montant, eh ben la terre va se déplacer vers le haut.
Ok, je comprends.
Donc les difficultés, c'est de trop pincer. Forcément,
bien
il y a
sûr.
Tout qui s'écroule.
Ouais.
Ou de pas assez pincer, là, il n'y a rien qui bouge.
Exactement. Donc c'est vraiment une question d'équilibre à tout moment. Et puis de sensibilité des doigts.
C'est en fait quand on apprend le tournage, une série de déclics qu'on va avoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment. C'est un peu, moi je le dis souvent, comme quand on apprend à conduire. Hein. Au début, on est là, mon Dieu, il faut que je passe la deuxième, que je mette le clignotant, que je regarde dans le rétro. Et bah, le tournage, c'est un peu pareil.
Ouais.
Et c'est des automatismes qui se font.
Qui, je comprends. Donc c'est vraiment l'expérience qui est utile, vraiment. C'est le fait d'acquérir un maximum d'expérience. Dis-moi, dans les images un petit peu d'épinal comme ça qu'on a de la personne qui fait un tournage, il me semble que les mains ou la terre est toujours humide. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On doit toujours s'immerger, s'humecter les mains ou la terre.
Alors, il vaut mieux avoir les mains humides parce que si la terre est juste plastique et pas humidifiée, la terre va accrocher aux doigts.
D'accord.
Et si on centre, par exemple, là j'ai fait avec les enfants, ils centraient, ils appuyaient sur la boule, elle commençait à sécher, ben, ça commence à chauffer les doigts.
Ah d'accord, donc c'est vraiment c'est, la fonction de l'eau, c'est plus de
pour
lubrifier.
Pour que ça glisse, voilà.
Pour que ça glisse, je comprends bien. Y a-t-il quelques outils qu'on utilise quand même, genre je sais pas, un petit bec ou des choses comme ça ou...
Un petit bec.
Ouais, enfin je me disais, tu vois, pour faire une...
Ah si, on veut faire le bec du pichet.
Ouais, voilà, des choses comme ça.
Alors le bec du pichet, ça se fait avec les doigts.
Ah ok,
tu fais
simplement.
Tu fais un petit pont avec tes doigts d'un côté, puis après tu as l'autre main qui vient à l'intérieur et frotter sur les autres en descendant, tu
D'accord,
vois.
D'accord, je comprends. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup les doigts en fait. Hein.
C'est les doigts, mais ça, on utilise aussi des outils comme les estacs. Alors les steaks, bah, par exemple, moi comme steak, j'ai ma carte fidélité Manor.
Ok.
Que tu peux aussi découper comme tu veux pour avoir un profil pour pouvoir le répéter sur plusieurs pots.
Et comment tu l'utilises alors au moment du tournage?
Bah, à la fin, quand tu lisses, mm-hmm. pour enlever justement toute cette eau qui est restée sur la paroi. Comme ça, tu enlèves non seulement la barbotine, mais ça te permet de plus facilement d'enlever ta pièce du tour.
D'accord. À la louche, une tasse de 3 décilitres avec une anse. D'abord, on fait j'imagine que d'abord, on tourne la tasse et puis la anse s'ajoute plus tard.
Tout à fait. Alors, il faut d'abord tourner ton pot future tasse et tu le laisses un peu raffermir. C'est-à-dire que tu attends qu'il devienne ce qu'on appelle consistance cuir. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore sec, mais il ne se déforme plus quand tu le touches.
D'accord.
Et là, tu viens coller en fait avec de la barbotine, donc de la terre liquide, en grattant un petit peu pour que ça accroche bien. Tu viens coller ta anse.
D'accord, à ce moment-là. Ok. Et puis ensuite, alors avant d'en arriver au séchage et cuisson, pour une tasse, disons justement de 3 décis avec sa anse, combien de temps a priori ça occupe?
Combien de temps ça occupe?
Je veux dire, le tournage, il se fait en... C'est plutôt 10 minutes, c'est plutôt une heure. La question sous-jacente, c'est faut-il être en plus endurant lorsque l'on fait du tournage?
Endurant? Non, patient.
Patient. Non, mais parce que je me dis que quand même, tu vois, il faut agiter ses mains d'une certaine manière, tenir la position. Enfin, c'est plutôt de la patience.
Alors oui, c'est D'accord. plutôt de la patience.
Ok.
Et puis, c'est aussi le fait de ne pas s'énerver parce que...
Ouais, j'imagine.
Souvent, on est maladroit, on laisse tomber des trucs, ou bien on donne un coup de coude malencontreux, comme ça.
Ouais.
Donc, faut pas s'énerver, faut juste passer à la suite.
Le moment de tournage, on ne parle pas à la personne qui tourne, c'est la règle ou bien?
Non, on peut très bien lui parler,
ouais.
parce que vu que c'est très tactile, la personne peut très bien regarder n'importe où ailleurs.
Okay,
sauf
d'accord.
à la fin, quand il faut regarder la ligne du profil.
Ouais. Concernant les couleurs, alors comment ça se passe? C'est des pigments? Est-ce qu'ils sont ajoutés au moment du tournage? Est-ce qu'ils sont ajoutés plus tard?
Alors, c'est pas vraiment des pigments, c'est des oxydes métalliques.
D'accord.
Donc, en fait, tu as différents métaux qui vont te donner différentes couleurs.
Ok.
Et ça, c'est la base des couleurs en céramique.
Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre.
Oui.
Parce que j'imagine qu'il y a des mélanges et que le résultat n'est pas le même lorsque l'on met et lorsque l'on cuit. On a des fois des surprises.
Tout à fait. Ben, ouais. N'importe quel oxyde métallique qu'on pose a l'air gris.
Ah ouais, d'accord. Et puis c'est oui bien sûr.
Et après cuisson, bah il y a les couleurs qui se révèlent.
Ouais.
Et quand on met l'émail dessus, bah ça révèle encore plus les couleurs, comme quand on plonge un caillou dans l'eau.
Ah je vois tout à fait cet effet. Ouais ouais.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Mais alors à quel moment on applique justement les couleurs?
Alors la première couche d'engobe blanc par exemple, bah c'est à consistance cuir.
Ok. Et puis après c'est lors de la donc au moment du séchage.
Ouais.
Là, on a quelque chose qui se révèle, mais qui n'est pas encore du résultat final. Mmh. Et ensuite, on laisse sécher combien de temps, a priori?
Tout dépend si on est en été ou en hiver.
Uh-huh.
Si c'est en été, ça peut sécher dans la journée ou même dans l'heure, si c'est au soleil.
D'accord.
Avec un peu de vent. Et par contre, en hiver, on peut facilement attendre une semaine avant que ça soit complètement sec.
Ah oui, d'accord. Alors là, il y a quoi? Par exemple, toi, un dépôt dans lequel tu laisses les pièces assécher avant qu'elles ne partent au four?
Oui, ça s'appelle un séchoir.
Moi, je suis profane. Hein.
Il n'y a pas de question bête. Hein.
Exactement. Il y a un séchoir, mais ce séchoir, c'est juste une... Ce que je veux dire, c'est que c'est une infrastructure qui est dotée, par exemple, d'une aération ou de quelque chose, ou pas spécialement, c'est juste une pièce?
Non, en fait, c'est juste un endroit où on peut poser les planches.
D'accord.
Donc, on prend les planches, on les met sur les tréteaux à côté du tour, ou bien on les remet sur le séchoir suivant ce qu'on veut faire sur nos pièces.
Je comprends. Une fois que le séchage est accompli, eh bien, il y a la phase de la cuisson. Est-ce que ça, c'est une phase délicate ou c'est relativement facile? La durée, les résultats qui vont derrière? J'ai entendu parler de pièces que l'on retrouvait soit de couleurs non prévues, imprévues, soit même des fissures par la suite.
Oui, alors... En général, il vaut mieux faire des essais avant.
Ok.
Hein, parce que la terre n'est pas forcément accordée aux engobes qu'on va mettre dessus ou à l'émail final qu'on va mettre dessus. Donc, il faut faire des petits essais.
Ok.
Et quand on a fait nos essais, qu'on voit qu'ils marchent, on peut les appliquer sur nos pièces. Et là, on a moins de surprises. Mais vu que les gens sont pressés, ils loupent l'étape des essais.
Et donc des surprises surviennent.
Et donc du coup, voilà.
Ouais. C'est, quand c'est des surprises, c'est souvent des mauvaises surprises.
Oui.
Ah ouais, d'accord. alors tu as dit les cuissons, donc les cuissons, il faut être attentif au degré. Tu as parlé entre 1000 et 1300, hein, si j'ai bien compris,
c'est
selon
ça.
Les terres.
Mais il y a un palier à respecter pour la montée en température qui est très importante. Ouais, ouais.
C'est-à-dire que la cuisson monte, alors comme tu l'as dit, par palier.
C'est ça, donc il y a le premier palier qui s'appelle le petit feu, qui lui en fait est de 0 à 100 degrés. Donc c'est un moment où il faut aller assez lentement. Dans un four électrique, on mettra facilement 2 heures. Pour être sûr que toute l'eau, même dans une pièce sèche, soit partie.
Je comprends.
Et ensuite, on va monter jusqu'au point quartz. Alors le point quartz, en fait, c'est le moment charnière de la céramique. C'est là où la silice en fait va gonfler d'un coup de 2%. Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, j'imagine, bien sûr.
Donc c'est à 573 degrés. Donc souvent on arrondit à 600, comme ça on est sûr.
Il y a quand même une petite marge de manœuvre alors.
C'est ça.
D'accord.
Et après on peut mettre le four à fond les ballons.
Ok. Donc là on monte selon le type de la variété de terre de 1000 à 1300.
C'est ça.
Et là, la durée, elle est importante également ?
Bah oui, assez.
C'est le volume de terre qui détermine, ou la forme de l'objet, qu'est-ce qui détermine la durée ?
Effectivement, si on a une sculpture avec des épaisseurs de terre assez épaisses, on va préférer une cuisson très très lente, pour justement éviter que ça casse. Mais si on a par exemple, fait de la vaisselle utilitaire avec toujours la même paroi, on va faire une cuisson classique. C'est-à-dire que pour de la faïence, par exemple, on va arriver à peut-être 12 heures.
Ah ouais, quand même.
Pour monter jusqu'au 1000 degrés. Et ensuite, ça va mettre le double de temps pour redescendre en température. Et il y a une technique qui est excellente qui s'appelle la cristallisation. Alors ça se fait plus sur porcelaine ou sur grès, où là, l'émail va cristalliser. Et cette cristallisation se fait uniquement dans la descente de température, c'est-à-dire que c'est la seule cuisson où on contrôle la descente.
C'est marrant ça.
Voilà.
Alors, c'est-à-dire que la descente de température, elle aussi, eh bien, elle est aussi importante finalement que la montée.
Uniquement dans la cristallisation.
Dans la cristallisation, ok.
Qui
Et
est alors, magnifique.
Mais parce que, oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que les fours sont pas transparents. Comment est-ce qu'on sait quand c'est vraiment prêt ?
Alors c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des fours électriques qui nous font des trucs vraiment nickel chrome, mais il existe d'autres types de fours. Il y a le four à gaz par exemple, alors là c'est un peu manuel pour ouvrir les buses et tout ça, mais grâce à ce type de four on peut obtenir des réductions, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'avec la flamme on vient manger tout l'oxygène qui se trouve à l'intérieur du four et en même temps manger l'oxygène des oxydes métalliques. C'est-à-dire que la couleur va prendre une autre couleur.
Waouh, c'est génial.
Oui. Après, on a un autre type de four qui est le four à bois.
Mais oui, mais alors là, comment est-ce qu'on contrôle une température dans un four à bois ?
Alors justement, les anciens verront ça à l'œil, suivant la température. Oui, à l'œil, on peut voir la température, suivant quelle orange c'est. Ouais.
D'accord, mais alors là aussi, j'ai
Alors là, c'est les expérimentés. Mais voilà. Sinon, on utilise ce qu'on appelle des montres. C'est des petits cônes où ils vont fondre à une certaine température. C'est-à-dire qu'on peut en placer plusieurs. Par exemple, lui, je le mets à 800, lui à 900. Et puis, par le petit trou, on peut voir s'ils sont tombés ou pas.
Je trouve incroyable le nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, les astuces que vous mettez en œuvre pour pouvoir arriver à gérer tout ça. Ça fait vraiment... c'est Prométhée, hein, tu sais, c'est le feu sur la terre et ce feu magique comme ça.
Mais c'est magique, du début jusqu'à la fin, c'est magique.
D'accord. Écoute, alors on va s'arrêter là pour la partie technique, parce qu'il faut qu'on parle quand même de ton activité,
ah bon
de ton actualité, oui. Puisque non seulement tu es céramiste, tu fais donc des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Comment ça se passe, ces ateliers ?
Tout à fait. Alors, dès la rentrée, là, je vais donner des cours pour les adultes, donc sculpture et modelage, et de la peinture sur porcelaine aussi. Parce que ça, c'est un truc qui est vraiment... magnifique à faire parce qu'on peut bouger indéfiniment la matière avec des sortes de stylos en plastique si tu veux et puis venir putoiser. Alors le putoisage,
c'est quoi putoisage. Le putoisage, ça c'est un mot scrabble que je me note.
C'est en fait avec une éponge on vient tamponner comme ça.
Ah c'est ça.
Et du coup ça donne quelque chose
l'effet,
d'assez
lisse un peu. Et machin. Ouais, voilà. absolument. Ça c'est le putoisage.
Oui c'est
d'accord,
ça.
D'accord. Ok. Et alors sont ces ateliers destinés aux enfants, aux adultes, tu
Alors,
l'as dit
ça, c'est pour
non,
les adultes.
Ça, c'est pour les adultes.
Et pour les enfants, ça sera au chalet, donc c'est en haut des Crêtes de Champel, en haut du bout du monde.
Mmh, ouais.
L'association du chalet, où je serai le lundi de 4h30 à 6h.
On peut avoir ces informations-là via une page Facebook, un site internet.
Sur mon site internet, alors isabellefranière.ch.
Alors redis plus lentement, Isabelle.
Isabellefranière.ch.
Très bien. Et nous, on mettra le lien évidemment sur le, au libellé du podcast pour que les gens ne se trompent pas dans l'orthographe, tout ça.
Très simple.
Je t'en prie. Quels sont les prérequis, s'il y en a, pour les adultes et pour les enfants avant de venir actionner toutes ces choses-là et toutes ces compétences-là?
Accepter, rater des choses.
Non, mais c'est super important. On en revient à la patience dont tu parlais tout à l'heure.
Bah
voilà.
Oui.
Ouais. Donc, il faut accepter qu'on puisse vraiment se tromper.
Ah ouais, complètement. Mmh. Mais c'est ça qui est magique avec la Terre, c'est qu'on peut la rattraper autant de fois qu'on veut, quoi. Tant qu'elle n'est pas sèche, il n'y a pas de souci.
Ouais, d'accord. C'est tout. Ouais. Les classes d'âge, est-ce que les enfants, à partir de quel âge peuvent-ils?
Alors, en général, à partir de 5 ans.
Ah ouais, si tôt?
Ouais, parce qu'il faut qu'ils aillent de la force quand même dans les doigts. Avant, ils n'ont pas assez de force, donc il n'y a pas d'empreinte vraiment qui se fait. Et puis, il y a des enfants qui seront vraiment très minutieux, très, très patients. Et il y en aura d'autres qui ne seront pas du tout patients.
D'accord. Est-ce que tu passes également, lors de tes ateliers, par des expérimentations avec, je sais pas, de la pâte à modeler ou de la pâte à sel ou des choses comme ça, ou on y va direct avec...
Non, moi, je vais direct avec la terre, okay, parce qu'au moins, c'est naturel et puis c'est la matière que je maîtrise.
Ouais.
Et puis voilà.
Très bien. La terre, est-ce qu'un jour, tu iras avec les enfants en chercher dans la forêt? Ou bien ça, quand même, tu accèdes aux matériaux de base?
Alors ça c'est possible, par contre il faut épurer cette terre parce qu'elle est pleine de cailloux ou de petits déchets végétaux, donc du coup il faut la faire tremper, la filtrer et puis c'est quand même pas mal de boulot.
D'accord, j'ai compris. Donc en fait la terre elle est quand même là.
Le mieux c'est de l'acheter, en pain, voilà, tout ouais. Simple, au moins c'est...
Où est-ce qu'on achète ce type de choses?
Ça se trouve Migros Budget, t'en trouves, hein.
Ok, très bien. D'accord.
Quoi, Migros Budget? M-Park.
M-Park, ouais. D'accord. Et pour les adultes, c'est pareil, pas de prérequis, sauf la patience dont on parle toujours, toutes ces choses-là.
C'est ça, ouais.
Ok. Et puis, avant, quel temps mettons avant d'arriver à façonner une pièce, disons, de manière... Enfin, à ce qu'elle soit, a priori, utilisable? Est-ce que c'est quand même un long apprentissage ou est-ce qu'assez rapidement on arrive à faire des premières choses, je veux dire? Des choses simples, hein?
Assez rapidement, oui, ouais. Bien sûr, sauf si on commence le tournage. Parce que le tournage, ça met quand même, on va dire, une bonne année avant de commencer à sortir des pièces, à arriver à diriger la terre comme on veut.
D'accord.
Parce que c'est le but.
Ouais, bien sûr. Toi, ces cours sont-ils déjà assaillis par les gens ou bien on peut encore lancer l'appel en disant renseignez-vous, allez sur le site, inscrivez-vous, il y a encore de la place?
C'est des nouveaux cours, donc
ça commence.
Voilà.
Très bien, donc on peut vraiment encourager les personnes à aller découvrir son travail et puis pourquoi pas s'inscrire via le site internet.
Tout à fait.
Génial. Revenons-en maintenant aux expos. Tu vas organiser donc des expositions d'œuvres que tu as faites toi.
Voilà, alors moi typiquement j'ai fait différents types d'œuvres, mais j'en ai fait une grâce à la peinture sur porcelaine en fait, que je prends en photo macro et que j'agrandis. C'est-à-dire que ça donne des tâches à la façon un peu des tests de Rorschach, hein,
oui.
Où on peut voir un peu tout ce qu'on veut, mais j'y intègre toujours un visage histoire de rattacher le décor à l'ensemble.
D'accord. Et puis alors, date et lieu, tu sais déjà, tu as déjà un...
Oui, alors à l'atelier du Square, qui est à la gare routière à Genève.
Oui.
Expo prévue là de fin août jusqu'à fin septembre.
Fin août à fin septembre, d'accord. Et puis voilà. Donc les personnes de passage peuvent...
Tout à fait. Et en plus, c'est un super atelier parce qu'elle a un concept absolument fantastique. C'est un endroit où on peut venir peindre si on veut, quand on veut.
Ah, donc génial.
On s'abonne et puis on vient, c'est open bar, quoi.
Ouais, ok.
Et en même temps de ça, il y a des cours à côté et des stages.
Ok. Est-ce que toi, tu envisages d'y faire une ou deux rencontres avec le public, avec les personnes qui viendraient? Qui viendrait visiter l'exposition. Est-ce que ça, par exemple, une table ronde en disant, ou deux, hein, en disant, je vais vous parler un petit peu justement de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Pourquoi pas même faire un petit truc en live pour montrer un peu aux gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu envisages de faire? Ou c'est vraiment expo, parce que le lieu, voilà, c'est pour ça.
À ce lieu, bah justement, je vais donner le cours de sculpture et le cours de peinture sur porcelaine.
Ah, au même endroit.
Voilà.
Ah, très bien, d'accord. Eh bien, en tout cas, sache que si jamais un vernissage aurait cours, nous, tu nous sollicites et puis on vient. Hein. voilà, t'hésites pas en tout cas. Et puis sinon, bah voilà, je me tourne vers les personnes autour de nous. Si des questions surgissent, eh bien c'est le temps.
Oui, moi je voulais revenir sur tout le processus de production, la cuisson, etc. Je trouve ça fascinant.
Ouais.
Mais je suppose qu'on n'a pas... Bah, moi, le four que j'ai à la maison, il monte à 300 degrés.
C'est
il faut une
pizza,
installation.
Ça.
Il faut
ah
une
oui,
installation
bah,
pour
oui,
ça.
L'électricien donc... doit venir, ça c'est sûr.
Et donc toi comment tu t'es arrangé? T'as aménagé ça chez toi ou t'as l'atelier qui va avec? Et pour les cours, est-ce que tu mets à disposition pour ceux qui s'expérimentent, enfin, qui auraient acquis assez d'expérience pour faire tout seul, est-ce qu'eux ont, soit à travers toi, soit quelque part à Genève, une infrastructure, un four suffisamment grand et qui monte à une température suffisante?
Un four céramique, vraiment, et c'est le terme. Hein.
D'accord, donc ouais. Ça s'appelle un four céramique.
Voilà, ouais.
Et ça existe à Genève, il y a une structure qui en propose.
Alors il y en a plein, j'ai été étonnée de savoir le nombre de la concentration de fours céramiques qu'il y a ici, quoi. C'est dingue. Donc en fait, moi j'avais mon atelier avant, mais j'ai été déportée. Donc finalement, j'ai installé mon atelier chez moi dans ma cuisine avec mon séchoir. Et je cuis à différents endroits. Donc il y a par exemple Créamix qui va changer là, par exemple qui est à la rue des Savoises. Eux, ils ont un four céramique où je cuis pour le moment. Mais c'est vrai que la cuisson, c'est un petit apprentissage. Typiquement, si on cuit des pièces qui n'ont pas d'émail, on peut très bien les empiler, puis faire la cuisson. Par contre, s'il y a de l'émail, ben, elles vont coller ensemble.
Donc il faut distinguer et puis enfin, ne pas mélanger les cuissons.
C'est mieux.
Ouais.
Mais après, on peut...
Et lors des cuissons, toi tu es présente ou bien, comme tu l'as dit, voilà, ils sont là, ils s'occupent des fours et puis ils font un peu le...
Alors c'est ça qu'il y a de complètement très sympathique avec un four électrique, c'est qu'on appuie sur le bouton on une fois qu'on a fait sa programmation.
Voilà, et ça
et puis on
seul.
Peut s'en aller.
Ouais. Ça c'est pas mal quand même, c'est un chouette gain de temps.
Alors que le four à bois ou à gaz, ben non, il faut rester là.
Ouais. Ok. Oui, une question.
Est-ce que la cuisson, est-ce que le rendu de la matière change quand on utilise un four à gaz, un four à bois, un four électrique? Est-ce que ça donne un rendu qui est différent, pas seulement pour la peinture, mais vraiment la matière finale, quoi?
Alors, dans ton four électrique, ça va garder la même atmosphère, ça ne va pas changer. Et ça va faire quelque chose d'assez linéaire, classique. Le four à gaz, justement, tu peux changer la couleur en faisant la réduction, ce que je disais, en mangeant l'oxygène qui est à l'intérieur du four. Et dans le four à bois, tu peux te faire de l'émaillage au sel. Donc en balançant des gros morceaux de sel dans du papier journal. Et en fait, le sel va se dissocier. C'est quoi? C'est sodium... Ah, c'est... Alors là, je sais plus. C'est le... Bref.
Le chlore et du sodium.
Voilà. Et le sodium va se mettre sur le pot et du coup faire le vernissage. Et le chlore va partir en acide chlorhydrique dans l'air.
Ah ouais, mais ça faut faire attention quand même, non? C'est pas un peu toxique, toutes ces émanations-là?
Ah, faut pas être à côté.
Faut pas être à côté, d'accord. Pierre avait encore une question.
Ouais, moi, j'ai juste une question sur...
Ouais.
Donc, tu fais de la... Tu peins sur céramique, puis après, tu prends les photos macro de ce que tu as fait.
Pour la peinture sur porcelaine, ouais.
Ah oui, peinture sur porcelaine.
Parce que la peinture sur porcelaine, c'est vraiment spécifique, en fait.
Et pourquoi macro? Parce que tu veux pas montrer l'œuvre complète? Tu t'attaches aux détails? C'est quoi la mécanique?
Parce que justement, il y a des détails qui se forment, qui sont assez magnifiques. Quand, par exemple, tu poses juste une goutte de térébenthine, ça va s'étoiler, si tu veux, de façon assez organique. Et ça va ressembler à des sortes de petites cellules. Et du coup, en prenant justement ça en macro, tu vois tous ces détails de matière qui s'étoilent et c'est très très joli.
Et puis, alors...
On ira voir.
Ouais. Oui, c'est ça, parce que ça donne envie de toucher aussi. Le grain, toutes ces choses-là,
oui.
ça donne vraiment cette envie-là, je trouve.
Alors ça, c'est un truc qui est absolument extraordinaire. C'est quand le pot... Et cru, donc pas encore cuit, et qu'on a posé les couleurs aux engobes, et que la pièce est prête à cuire, il a une teinte qui est tellement magnifique que tout le monde veut la prendre.
J'imagine, il ne faut pas y toucher. Hein.
C'est ça.
Très bien, très bien. Écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins qu'encore une question ne survienne. On va s'arrêter.
J'ai encore un autre cours en fait que je vais donner pendant cette année future scolaire, mm-hmm. qui va être formation pour ceux qui s'occupent du parascolaire.
D'accord.
Donc tous ceux qui font du parascolaire ont droit à des formations et je vais leur proposer une formation céramique. Voilà.
Génial. Ok. On se tiendra bien informé de tout ça via le site internet. Voudrais-tu rappeler?
isabellefranière.ch.
Voilà, et nous on le mettra donc en lien. Et puis il faut qu'on se revoie pour continuer de parler de tout ça, parce que là aujourd'hui on a malheureusement des impératifs de temps et d'horaire qui font qu'il faut qu'on fasse une interview à 15h.
Moi aussi, il y a plein d'enfants qui m'attendent.
Voilà, donc on a tous un peu nos petites affaires, mais on va revenir vers toi pour reparler de ça, parce que c'est extrêmement intéressant.
Mais oui.
Et puis ça ne connaît comme limite que l'imagination.
Oui, et des fois... Il y a des trucs qui ne marchent pas. Il faut le savoir.
Et il faut l'accepter. Mais c'est bien.
Oui,
c'est bien aussi.
Ouais.
Isa, je te remercie énormément d'être venue jusqu'à nous. Et puis on va se retrouver bientôt.
Volontiers.
Merci et bon après-midi.
Pareillement.
Ciao. Voilà, nous on fait une petite pause musicale et puis on revient avec. On revient pour parler de la Coupe du Monde de football avec l'écrivaine Si Young qui vient à Framato. Donc ce sera peut-être un petit peu. Voilà, le son est un petit peu moins bon, ça fait un petit peu un son téléphone, mais c'est très très audible. Nous allons parler des méfaits de la Coupe du Monde de football qui a donc débuté il y a de cela quelques jours. C'est aujourd'hui un jour un peu spécial pour les personnes ici en Suisse, puisque la Suisse entre en jeu contre le Brésil, je crois, ce soir. Mais voilà, là on va plutôt parler effectivement des valeurs et de ce que cela mobilise ou ce que cela interdit. Voilà, d'ici là, une petite pause musicale avec ce qui arrive. Et puis, si tu souhaites, comme d'habitude, interroger ou questionner nos invités, eh bien, tu le fais via la page Facebook, c'est La Comète à la Banane, ou à travers le mail info@libradio.org. À tout de suite.
On ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits bains.